Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Je voudrais souhaiter également la bienvenue tout particulièrement à nos nombreux élus qui sont là ce soir. Je pense en particulier au président de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, M. Harold Martin, qui fait l'honneur d'être là ce soir, M. Galliano, le président du Congrès, et beaucoup d'élus des provinces du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui, effectivement, sont à Paris à l'occasion, comme vous le savez, du prochain comité des signataires qui doit se tenir ce vendredi. Je voudrais saluer également Mme Marie-Claude Chibaou et puis les nombreuses personnalités qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Je suis très très heureux d'accueillir ce soir M. Jean-Christophe Gay, mon ami Jean-Christophe, que je connais depuis 20 ans.
25 ans.
Ah oui, peut-être. Oula.
Précision.
Stoppons tout ça tout de suite. Très jeune agrégé, puisqu'il n'a été qu'agrégé dans sa vie. C'est magnifique.
Après, on m'a désagrégé.
Oui, voilà. C'est la géographie qui l'a désagrégé. Jeune agrégé, il a, à moins de 25 ans, je crois,
oui.
Il a commencé sa carrière à l'Orstom de Polynésie française, où il a beaucoup travaillé sur l'Atlas de la Polynésie, ce qui lui a donné quand même une vraie prédisposition à embrasser ensuite toutes les problématiques liées à l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il s'y est penché passablement, puisqu'il en a été le directeur scientifique.
Co-directeur.
Dans le cadre d'un partenariat entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'IRD. Donc c'était un magnifique projet avec un ouvrage remarquable qui fait déjà référence, mais qui marquera la Nouvelle-Calédonie pour les 20 prochaines années, sans aucun doute. Je suis très très heureux de l'accueillir puisqu'il a fait le trajet de Nice, puisqu'il est professeur des universités depuis une quinzaine d'années maintenant. Il a travaillé à Montpellier, à La Réunion. Il a fait le déplacement de Nice pour venir nous présenter son ouvrage, qu'il a intitulé d'un titre très très accrocheur, « La Nouvelle-Calédonie, un destin peu commun », par référence sans doute au destin commun si cher à l'accord de Nouméa. C'est un ouvrage remarquable, avec une précision d'entomologiste, mais ça caractérise Jean-Christophe. C'est vrai que cet ouvrage embrasse toutes les problématiques de développement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi toutes les disparités, puisque c'est quelqu'un qui est très attaché à mettre en évidence les disparités entre, par exemple, le tourisme, le nickel, disparités spatiales aussi entre Nouméa et le reste du pays. Les disparités, c'est quelque chose qui a toujours passionné Jean-Christophe, puisqu'il y a 20 ans déjà, il écrivait un ouvrage sur les disparités ou les discontinuités spatiales. Pas tout à fait la même chose, mais bon, c'est assez proche.
J'ai quelques idées fixes, oui.
Oui, ça c'est vrai. Je lui rendais visite il y a près de 30 ans chez lui et il faisait déjà, tout jeune, des relevés de température pour faire sans doute des graphes. Ça, ce sont des passions de géographe, bien sûr. Il a ensuite beaucoup travaillé, il nous présentera cet ouvrage, bien entendu. Il a aussi beaucoup travaillé, il n'a pas travaillé que sur cet ouvrage. Il a travaillé aussi beaucoup sur les îles tropicales, sur qu'est-ce qu'il a travaillé. Il a travaillé aussi beaucoup
sur les îles tropicales en général.
Tropicales, mais aussi sur le tourisme, je crois que
voilà, c'est ma, c'est ma casquette principale actuellement.
C'est quelqu'un de remarquablement gentil, de très attachant, toujours souriant. Il est un peu tendu ce soir, mais je pense que ça est normal. Il disait, mais pourquoi je me fais violence comme ça? C'est extraordinaire de venir affronter un public, surtout avec beaucoup d'élus, alors que je pouvais être très tranquille à mon temps chez moi. Mais bon, voilà, je voulais le remercier tout particulièrement. C'est très gentil à lui d'avoir fait ce déplacement. Et je vais lui donner la parole avant de vous souhaiter en tout cas à vous tous une excellente soirée. Merci beaucoup.
Merci. Bien, bonsoir. Donc d'abord, je tenais à remercier la Maison de la Nouvelle-Calédonie et puis Joël de l'accueil qu'on m'a fait ici, qu'on m'a fait toujours d'ailleurs. Je tenais à remercier aussi Joël pour une deuxième chose, c'est qu'il sait très bien faire les nœuds de cravate. Et j'ai l'habitude de faire des nœuds de cravate façon François Hollande. Donc je conseille notre président de venir régulièrement à la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour qu'il se fasse faire ses nœuds de cravate. Le mien, ce soir, J'ai l'impression qu'il est impeccable. Merci Joël, merci de ton nœud de cravate. Merci Anne aussi d'avoir organisé cette conférence, et puis merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. Donc, comme l'a si bien dit Joël, je suis professeur d'université, je suis géographe, et actuellement donc, je suis à l'université Nice-Sophia Antipolis. Alors, pourquoi j'ai été amené à travailler sur Nouvelle-Calédonie? Il se trouve que donc, mon université m'a prêté à l'IRD pendant quelques années pour coordonner à Nouméa et puis co-diriger l'Atlas, donc la partie humaine et économique de l'Atlas, puisque mon collègue Jacques Bonvalot s'occupait des sciences dures. Alors, sur cette première diapositive, vous avez l'adresse de ma page web. Alors, je l'ai placée là parce que l'IRD a une base documentaire qui s'appelle la base Indigo, qui comporte aujourd'hui 60 000 diapositives, 60 000 photos, qui sont disponibles pour tous. Et on est en train de renforcer le volet néo-calédonien de cette base Indigo. Donc, toutes les photos qui ont été prises dans le cadre de l'Atlas, c'est-à-dire à peu près 3000 photos, elles sont progressivement versées dans la base Indigo. Ouais, donc, vous avez un lien sur ma page web vers cette source documentaire très importante. Alors, un petit retour sur le programme de l'Atlas, parce que Joël l'a évoqué, mais il faut que quand même j'y revienne un peu plus longuement. Ce livre, en fait, est la troisième étape d'un programme qui a débuté en 2004, quand le Conseil consultatif de la recherche a demandé à l'IRD une actualisation de l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie, un Atlas qui datait de 1981. Alors, Stom avait fait un Atlas, donc très grand format, à peu près la taille de ce pupitre, en 1981, et cet atlas, bien sûr, il était dépassé dans ses informations. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, et donc une étude de faisabilité sur un nouvel atlas a été menée. Donc un rapport de faisabilité a été déposé, a été validé en 2006, et en 2008, une convention a été signée entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'IRD. Le Congrès donc, a été un partenaire extraordinaire dans ce programme parce que, d'abord, il a détaché une cartographe à temps plein sur l'Atlas pendant 4 ans. Il a contribué pleinement à la réussite de ce travail en faisant le lien avec certaines institutions. Certaines étaient un peu rétives. Et donc, on arrive à partir de 2008, aux travaux de terrain, donc qui vont commencer avec la mise en place d'un comité scientifique, avec donc la désignation d'une coordinatrice, d'un coordinateur, pardon, de deux co-directeurs, et donc la sortie de tout ce programme va se faire échelonner sur à peu près 2 ans, puisque l'Atlas, le gros Atlas, donc est sorti en février 2013. L'Atlas, vous le connaissez donc peut-être, sur un format A3. Il est beaucoup plus petit que l'Atlas de 1981, mais il reste quand même un gros ouvrage qui fait plus de 3 kilos. C'est une somme, 75 auteurs, 60 notices, donc des thèmes très variés abordés. Ça va de la géomorphologie jusqu'à la vie culturelle, en passant par des notices régionales. Et là encore, il faut louer aussi le travail du Congrès qui a lancé un concours d'artistes en Nouvelle-Calédonie pour l'illustration de l'Atlas. Vous avez sur cette diapositive les 5 œuvres, ces œuvres qui sont verticales ici, sont les 5 œuvres qui illustrent les 5 thèmes de l'Atlas, plus l'œuvre de couverture, première et quatrième de couverture que vous voyez ici. Ce sont des œuvres originales. Il y a eu donc un concours avec des prix qui ont été décernés. Et les œuvres originales sont aujourd'hui au Congrès. Je pense qu'elles sont exposées dans les couloirs du Congrès. Donc, véritablement, une implication très forte du Congrès dans ce travail-là. Alors, la deuxième production lié à ce programme de l'Atlas, c'est ce qu'on a appelé le DVD des communes. le DVD des communes qui est sorti donc récemment, octobre 2014. Il est sorti donc à Nouméa au Congrès. Il y a eu une journée porte ouverte à l'occasion. Monsieur Galliano nous a accueillis avec grand plaisir. Ce DVD, en fait, au départ, dans la convention entre l'IRD et le Congrès, il était dit qu'il y aurait une production aussi numérique, mais sans préciser de quoi il allait s'agir. Ça aurait pu être un PDF de l'Atlas. Et puis, au fur et à mesure qu'on a travaillé sur le terrain, qu'on a accumulé les informations, on s'est rendu compte que c'était un gâchis complet que de se limiter aux 60 notices, parce qu'on avait pris des milliers de photos, on avait accumulé des informations, donc il fallait les exploiter d'une autre manière. Et avec la cartographe donc, qui était employée par le Congrès, Céline Chauvin, on s'est lancé dans un DVD interactif à trois niveaux, au niveau des provinces, au niveau des communes et au niveau des bourgs, dans lequel vous avez à peu près 1500 photos inédites, vous avez des heures de documents vidéo, vous avez 300 cartes inédites, vous avez les notices de l'Atlas, qui sont les notices des communes qui sont dans ce DVD. C'est un produit qui a été conçu pour la Nouvelle-Calédonie, pour les étudiants, pour les enseignants, pour les touristes, pour les décideurs, pour les maires, etc. etc. Et c'est un produit, je fais passer le message aujourd'hui, on est en train de traiter le recensement de 2014, donc on va avoir les premiers chiffres qui vont sortir au fur et à mesure pendant l'année qui vient. Les 12 ou 18 mois qui viennent, je pense que c'est un produit qu'il faut faire vivre. Il faut l'adapter aujourd'hui, c'est un DVD, mais il faut désormais le passer sous d'autres supports, le mettre en ligne, l'actualiser. Donc j'espère que ça se fera. Alors vous voyez que si je remontre cette jaquette, il y a à la fois le DVD des communes et l'atlas numérique. Pourquoi est l'atlas numérique ? Donc en fait, dans ce coffret, vous avez deux DVD. Il y a l'atlas numérique parce que, tout simplement, l'atlas papier que je vous ai présenté il y a quelques minutes est un gros succès. On l'a tiré à 3000 exemplaires, il s'est vendu très rapidement, il a été épuisé, donc on a fait un retirage à 2000 exemplaires. Les retirages sont très coûteux, on ne va pas faire de deuxième retirage. Donc on s'est dit qu'on allait mettre en PDF toutes les notices sur un DVD qu'on allait vendre en même temps que le DVD des communes. Et pour 1500 francs pacifiques, 12,57 euros, vous avez donc ce DVD en vente dans toutes les bonnes adresses et bonnes librairies. Alors, le troisième étage de la fusée Atlas, c'est mon livre donc, qui est sorti dans la foulée du DVD. Donc, mon livre qui est sorti en novembre 2014. Alors, peut-être pourquoi j'ai fait un livre. Alors peut-être que j'ai un gros ego et je veux être en haut de l'affiche, pour une fois. Mais plus sérieusement, j'ai fait ce livre parce que co-diriger l'Atlas a été quelque chose de merveilleux. Dans la carrière d'un universitaire, je pense que c'est une des plus belles missions qu'on peut faire. Mais en même temps, un Atlas, il y a une démarche encyclopédique. Donc la réalité, elle est abordée d'une manière thématique, elle est parcellisée, finalement, au détriment d'une compréhension plus globale. Et par ailleurs, l'Atlas est calibré, les notices, il ne fallait pas qu'elles dépassent 20 000 signes, espace comprise, donc l'information, bien évidemment, elle est condensée, et il était difficile d'avoir des démonstrations assez longues dans ce calibre-là. Donc du coup, à un certain moment, à la fin de mon séjour en Nouvelle-Calédonie, fin 2011, après avoir parcouru une vingtaine, 25 000 kilomètres en Nouvelle-Calédonie, après avoir visité à peu près 150 tribus, toutes les communes, toutes les îles habitées, après avoir été en contact avec la plupart des auteurs, après avoir vraiment accumulé une masse d'informations, je me suis dit que c'était le moment de battre le fer tant qu'il était chaud. J'étais au centre d'une toile d'araignée, information, je l'avais, et j'ai écrit cet ouvrage véritablement dans l'exaltation, en quelques mois. Après, bien sûr, il a fallu qu'il passe par tout l'itinéraire d'une publication hierdienne, donc un comité de lecture, etc. Et le livre est sorti donc en 2014, un ouvrage qui, là je peux remercier l'IRD, c'est un ouvrage qui, sur le plan sur le plan de la forme, qui est extrêmement réussi. Alors, je ne me prononce pas sur le fond, mais sur la forme, il est extrêmement réussi. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu, j'ai eu un choc. Donc, quand on publie un livre, on est content de voir l'ouvrage, mais j'ai été un peu gêné parce que de voir ce si bel ouvrage, ça m'a rappelé une conversation qu'avait eue Pierre Bourdieu il y a une vingtaine d'années avec un grand historien français qui s'appelle Roger Chartier, une grande émission de France Culture à voix nue, où Pierre Bourdieu égratignait un peu les historiens en disant que les scientifiques n'ont pas vocation à écrire des cadeaux de Noël, en disant que finalement c'était peu sérieux quand on était un scientifique d'écrire des bouquins qu'on allait bien vendre à Noël, des bouquins d'historiens avec des belles images, des belles photos. Et d'un coup, je me suis senti un peu coupable de tomber dans ce travers-là, parce que ce livre, je me suis dit, finalement, la forme, elle va cacher la qualité, peut-être, du fond. Donc j'ai eu un petit choc, mais il faut avouer que le travail éditorial de l'IRD a été remarquable. Je salue Catherine Place, qui a été l'éditrice de ce livre. Bon, la maquette me semble particulièrement attrayante. C'est une maquette très dynamique, avec il y a plus de 250 photos dans l'ouvrage. Bon, il y a donc des illustrations extrêmement riches. Vous voyez donc ici des photos, des timbres, des affiches, des cartes, des anamorphoses. Vous avez, en tant que géographe, une approche par les lieux. Donc il y a à peu près un index des lieux où vous avez 200 entrées. Donc beaucoup de tribus sont abordées, de quartiers de Nouméa sont étudiés. Une approche par les lieux, par une cartographie totalement innovante. Pour le DVD, je me suis amusé avec Céline Chauvin à mesurer les temps de parcours entre toutes les tribus de Nouvelle-Calédonie et les mairies. Donc on a produit des cartes en isochrone qui n'existaient pas pour toutes les communes. Vous avez ce résultat-là dans le DVD. J'en ai reproduite deux dans le livre. Bon, c'est véritablement un souci de géographe que de montrer ces questions d'accessibilité, de disparité, d'éloignement. Et également un souci de vulgarisation. Bon, il y a un certain nombre de tableaux synthétiques dans cet ouvrage. Il m'a semblé qu'il était important pour faire passer l'information de synthétiser l'information par ces zooms. Par exemple, ici, à gauche, vous avez 100 ans d'évolution de la situation des Kanaks, donc de 1862, avec l'ouverture à Nouméa d'une école professionnelle, officielle, ouverte à tous les indigènes, jusqu'à 1962, qui est donc l'année où le premier Kanak a eu son baccalauréat. Donc, en 100 ans, on voit l'évolution. En même temps, une information aussi qui est précieuse, me semble-t-il, c'est les deux toponymies en Nouvelle-Calédonie, la toponymie en français et la toponymie en langue kanak, des communes. Alors, je ne suis pas rentré au niveau des tribus parce que ça dépend trop de place. Donc, véritablement, un souci de transmettre de l'information, un souci didactique, mais en même temps, la volonté de ne pas plagier l'Atlas. Il y a très peu de documents qui sont tirés de l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie. À 95%, les documents qui sont dans ce livre sont des documents originaux. Il faut maintenant que j'évoque le titre, puisque c'est quelque chose, les journalistes, lorsqu'ils me contactent, veulent en savoir un peu plus sur le titre, la Nouvelle-Calédonie, un destin un peu commun. Bon, c'est un jeu de mots, bien sûr, sur cette belle notion de destin commun qu'on trouve dans le préambule de l'accord de Nouméa. Alors, bien sûr qu'il y a une réflexion sur le destin. Le destin, vous savez que c'est un mot en français qui a au moins deux acceptions. Il y a la première acception du mot destin, c'est le fait que nos vies sont régies par des puissances extérieures et qui sont indépendantes de notre volonté. La force du destin, l'opéra de Verdi, et la force du destin, c'est finalement une illustration de cette acception-là. Et dans cette acception-là, l'opposition entre les Kanaks et les autres communautés peut être considérée comme quelque chose d'irrévocable, si vous voulez, où on peut également estimer que tout le monde en Nouvelle-Calédonie est condamné à vivre ensemble. Donc ça, ce serait la première acception. Il y a une deuxième acception plus douce du mot destin, qui est finalement l'acception dans le préambule de l'accord. C'est un sens plus affaibli, qui renvoie à la possibilité qu'ont les hommes de modifier leur existence. Ainsi, les Kanaks et les autres communautés pourraient mettre un terme à une, ce que je pourrais appeler une fatalité coloniale, hein, pour employer des grands mots. Alors, mon titre, il cherche un peu à démythifier cette belle notion de destin commun. Et puis, il cherche aussi un peu à la remettre en question dans la mesure où, finalement, en 16 ans d'existence, cette notion est devenue une sorte de formule magique. Une sorte de formule magique qu'on utilise un peu à tort et à travers pour s'assurer les bonnes grâces de l'État ou les bonnes grâces des dieux, sans souvent, sans parfois, se donner les moyens de la rendre concrète. Donc, c'était aussi dans ce sens-là que j'ai choisi ce titre. Alors, le destin peu commun de la Nouvelle-Calédonie, bon, c'est d'abord une histoire coloniale qui a été très dure, assez une histoire coloniale qui est originale, hein, où il n'y a pas eu beaucoup de gagnants dans cette histoire coloniale. Il y a eu des Kanaks qui ont été spoliés, qui ont été ségrégés, mais il y a eu la grande masse des Européens, on pourrait appeler ça des petits blancs si on prend une expression ultramarine, sans parler des Asiatiques exploités sur la mine, bon, sont aussi les victimes de cette histoire. L'originalité de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi ce processus négocié de décolonisation, d'émancipation qui est à l'œuvre aujourd'hui, hein, dans une République française qui, finalement, s'est très mal débrouillée avec ses décolonisations. Et, bien sûr, l'originalité de la Nouvelle-Calédonie, c'est son statut actuel, hein, qui a nul autre pareil dans la République française. Alors, vous avez ici une carte que j'ai faite pour l'Atlas de la France et des Français qui vient d'être publié par Le Monde et La Vie. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre à l'éditrice du Monde comment qu'il ne fallait pas mettre la Nouvelle-Calédonie avec les autres collectivités d'outre-mer. Hein. Donc, vous savez qu'en outre-mer, aujourd'hui, d'abord, il ne faut plus parler de Dom-Tom, ça n'existe plus depuis 2003. Hein. Il y a des départements et régions d'outre-mer, hein, donc il y en a 5, vous les avez ici, donc la Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Il y a des collectivités d'outre-mer, hein, bon, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barth, la Polynésie française et puis Wallis et Futuna. Et puis vous avez la Nouvelle-Calédonie qui a un statut à nul autre pareil, donc qui relève d'un titre particulier dans la Constitution, un statut dérogatoire. Et bon, l'éditrice ne comprenait pas ce statut-là. Elle me disait, mais non, mais il faut l'appeler la Nouvelle-Calédonie, il faut lui donner un nom. Si ce n'est pas une collectivité d'outre-mer, comment on l'appelle ? La Nouvelle-Calédonie, on l'appelle la Nouvelle-Calédonie, hein, jusqu'à nouvel ordre. Donc ça a été très difficile, hein, de faire admettre cela, et très peu de gens le savent. Donc dans cette notice pour cet atlas, il m'a semblé qu'il fallait faire passer le message. Alors, le message a été difficile jusqu'au dernier moment, et on a échappé à un incident diplomatique parce que l'éditrice, à ce moment-là, quand je lui ai dit « mais un statut dérogatoire », elle m'a dit « alors, on va dire que la Nouvelle-Calédonie est quasi indépendante ». Je lui ai dit « mais surtout pas, ne dites pas ça ». Donc, vous voyez que côté métropolitain, il y a une incompréhension de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et de l'évolution statutaire qui est assez impressionnante. Alors, quel est le bon niveau ? C'est la première question que je me suis posée dans cet ouvrage. Quel est le bon niveau de compréhension de la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'on comprend la Nouvelle-Calédonie en faisant appel à l'environnement régional, donc en utilisant l'Océanie, en intégrant la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble Pacifique Sud ? Ou est-ce qu'on la comprend mieux en l'intégrant au réseau des collectivités française ultramarine, donc en l'intégrant à cet ensemble éparpillé des miettes de l'empire colonial. J'ai essayé dans ce tableau de mettre dans les deux plateaux de la balance les deux aspects de la question. Est-ce qu'on a affaire à un territoire océanien ou un territoire ultramarin ? Un territoire océanien, oui, hein, parce que le peuplement originel commun de la Mélanésie, on a des personnes qui sont arrivées il y a quelques milliers d'années, hein, qui sont venues d'Asie du Sud-Est, hein, mais en même temps, la Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement. C'est un territoire océanien parce qu'il y a une intégration régionale, CPS, Forum des îles du Pacifique, mais il y a de telles inégalités de développement entre les territoires du Pacifique Sud, il y a une telle concurrence ou une telle faiblesse des échanges entre ces territoires, il y a des voisins de la Nouvelle-Calédonie qui sont des véritables contre-modèles économiques, voire des contre-modèles politiques avec une corruption, avec des coups d'État permanents. Donc tout ça ne favorise pas l'unité de cet espace océanien. En même temps, espace océanien, certes, parce qu'il y a des grands événements sportifs et culturels, les Jeux du Pacifique, le Festival des Arts du Pacifique, mais les échanges sont plutôt rares. Bon, il n'y a qu'à voir les liaisons aériennes. Vous n'avez pas de liaison aérienne directe avec la Papouasie. Il n'y a qu'un ou deux vols par semaine pour les Fidji. Il y a très peu de choses qui se passent. Et le sentiment d'appartenance de la population à cet ensemble océanien, il est finalement assez ténu. Et c'est ce qu'on voit aussi dans d'autres espaces ultra-barèmes, c'est qu'on a une sorte de système bipolaire. D'un côté, par rapport à les voisines considèrent la Nouvelle-Calédonie ou considèrent la Guadeloupe ou la Martinique comme des enfants gâtés. Et puis, de l'autre, on a une certaine compassion vis-à-vis de ces pauvres voisins. Alors, bien évidemment, il y a des processus d'entraide. À certains moments, il y a une fraternité qui se met en place. Il n'y a qu'à voir avec le cyclone qui a touché le Vanuatu il y a quelques mois. Mais, à mon avis, il y a véritablement de quoi réfléchir à cette appartenance océanienne. L'appartenance ultramarine, maintenant, on regarde l'autre plateau de la balance. Bon, il y a un cordon ombilical à la métropole, qui passe par des transferts publics massifs, surrémunération, aides diverses, défiscalisation. Il y a des indicateurs flatteurs comme le reste de l'outre-mer français, des PIB par habitant, l'espérance de vie, l'alphabétisation, la mortalité infantile. Il y a une balance commerciale très déficitaire, des sociétés très inégales, très inégalitaires, des conflits sociaux, une cherté de la vie, une faiblesse du tourisme. Et en même temps aussi des fortes ressemblances avec d'autres territoires ultramarins du Pacifique non français, comme Hawaï ou Guam. Alors, il y a donc des inégalités qui sont très fortes que je voudrais quand même pointer du doigt par rapport au voisinage. Ici, vous avez donc les PIB par habitant dans la zone Pacifique et avec aussi quelques collectivités françaises qui sont indiquées. 3 500 000 francs CP, c'est à peu près 30 000 euros pour vous donner une valeur. Donc vous voyez que la Nouvelle-Calédonie se trouve au sommet de cette pyramide inversée. La Nouvelle-Calédonie fait partie des territoires les plus riches du Pacifique. Elle est devancée par l'Australie légèrement et elle est devancée par Hawaï qui ne figure pas sur ce document. Mais elle est très largement devant ses principaux voisins. Alors pour vous donner des chiffres, le PIB par habitant de la Nouvelle-Calédonie, il est 11 fois supérieur à celui de Fidji. Il est 17 fois supérieur à celui du Vanuatu. Il est 37 fois supérieur à celui des Salomons. Et il est 42 fois supérieur à celui de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est un océan en matière de niveau de développement qui sépare la Nouvelle-Calédonie de son environnement régional. Et inversement, alors ce tableau rapidement, et je sais qu'il est difficile à lire de l'OM, inversement, quand vous regardez ces indicateurs pour les collectivités françaises du Pacifique, vous voyez que, en fait, l'outre-mer français présente un air de famille. Que ce soit la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, la Réunion dans l'océan Indien ou Saint-Martin et la Guadeloupe dans l'océan Atlantique, vous avez des indicateurs qui sont assez comparables par rapport à la métropole. Un indice de Gini qui mesure les inégalités dans la population qui est très élevé. C'est-à-dire qu'on a des sociétés très inégalitaires, plus proches du modèle sud-américain que du modèle nord-européen. On a un indice de développement plutôt flatteur. On a un chômage qui est plutôt élevé. On a un PIB par habitant qui est inférieur à celui de la métropole, bien que la Nouvelle-Calédonie soit différente. Donc, il y a un air de famille avec le reste de la France d'outre-mer. Alors, toutefois, la prospérité de la Nouvelle-Calédonie est moins factice que le reste de la France d'outre-mer parce que y a le nickel. Mais, bon, c'est un mais que j'introduis tout de suite, le rôle du nickel de point de vue économique, il a eu tendance à décliner. Vous voyez sur ce document, donc, dans le livre, je montre la part des mines métallurgie dans le PIB hein, depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, et la part des services non marchands. Donc services non marchands, c'est-à-dire l'éducation, la santé, les administrations. Hein. Vous voyez qu'il y a eu... Il s'est passé quelque chose après le boom du nickel du début des années 70. Donc, au milieu des années 70, l'économie néo-calédonienne a basculé. Hein. Le poids du nickel a faibli d'un coup. Hein. D'un quart du PIB, on est passé à une dizaine de pourcents. Hein. Alors que d'un coup, vous avez une montée hein, des services non marchands qui aujourd'hui se situe autour de 25%. Alors, on reviendra sur la question du rôle du nickel hein, dans... en Nouvelle-Calédonie, parce que je pense que là, il y a véritablement à faire une étude approfondie, beaucoup plus complexe que je ne l'ai fait. Hein. On y reviendra, parce que c'est quelque chose qui est en filigrane dans mon livre, mais que je n'ai pas, peut-être pas assez développé. Cette ère de famille qu'on trouve dans la France d'outre-mer, où ce qui fait famille au sein de la France d'outre-mer, c'est d'un point de vue génétique le syndrome néerlandais. Alors le syndrome néerlandais, c'est un syndrome qui touche l'ensemble de l'outre-mer français, y compris la Nouvelle-Calédonie, hein, et qui a des effets extrêmement pervers sur l'économie. Hein. Alors syndrome néerlandais, pourquoi ? Pourquoi ce nom ? Pourquoi cette expression ? Tout simplement parce que les économistes l'ont décrit pour la première fois à propos des Pays-Bas. Au début des années 60, les Pays-Bas se sont retrouvés à la tête d'une fortune, d'une richesse importante, quand on a découvert des gisements de gaz naturel dans le nord du pays. Les Pays-Bas étaient une petite économie, et le gaz naturel a totalement déséquilibré l'économie des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'argent qui est rentré dans le pays. Il y a eu une augmentation des prix et des salaires. Mais les secteurs exportateurs n'ont pas pu suivre cette augmentation. Donc l'industrie des Pays-Bas a connu une crise extrêmement grave, tout comme le tourisme aux Pays-Bas, parce qu'on avait une montée des prix qui était totalement artificielle, liée à cette ressource minière. Alors, dans ce document, j'ai essayé... Alors, je ne suis pas économiste, hein, mais j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait ce syndrome néerlandais en essayant de présenter deux boucles. Hein. Une boucle inflationniste, qui est donc la boucle à gauche, et ce que je pourrais appeler une boucle inhibitrice à droite. C'est-à-dire que l'origine du mal en France d'outre-mer, c'est l'ampleur des transferts publics. Alors, on est passé d'un système d'assistance à un système d'assistanat. Ces transferts publics ont entraîné une augmentation, une surchauffe économique, si vous voulez, une augmentation des revenus, une augmentation de la demande intérieure, une augmentation des prix en secteur protégé. Alors, les secteurs protégés, c'est tous les secteurs qui ne sont pas en concurrence avec l'extérieur. C'est l'administration, c'est le commerce, les banques, les assurances, tout ce qui est monopole de distribution, l'eau, l'électricité, Internet, les téléphones, etc. Donc, tout ça, ce sont des secteurs protégés. Donc, une forte augmentation des salaires en secteur protégé et une augmentation des revenus, hein, la boucle est bouclée. Et par ailleurs, hein, la conséquence de tout ça, c'est que les emplois dans les secteurs protégés sont très attractifs parce qu'ils sont mieux payés. Alors, à l'opposé, les secteurs non protégés, les industries exportatrices ou le tourisme, qui est considéré comme une exportation de services, va être touché, va être déstabilisé par cette arrivée d'argent parce que les intrants, les salaires, etc. augmentent, mais ces secteurs-là ne peuvent pas répercuter cette hausse de salaire. Donc le résultat, c'est que les exportations baissent, ce qui entraîne une augmentation des transferts publics. Et l'autre résultat, c'est que ces secteurs-là n'attirent pas la main-d'œuvre. Travailler dans le tourisme en Nouvelle-Calédonie, c'est pas très intéressant, c'est moins bien payé que travailler dans l'administration. Donc le résultat, faible attractivité des emplois et un glissement de la main-d'œuvre et du capital vers les secteurs protégés. La Nouvelle-Calédonie fait partie des territoires les plus chers du monde. Vous voyez ici le fameux indice Big Mac hein, de 2011. En 2011, hein, vous voyez que bon, on a des pays à très forte productivité qui sont devant la Nouvelle-Calédonie, la Norvège, la Suède, la Suisse. Hein. Mais Regardez la Nouvelle-Calédonie, elle vient juste derrière et elle est largement devant l'Union européenne, l'Australie, le Japon. Le Big Mac à Nouméa, il est 40% plus cher qu'à, il est 40% plus cher qu'à Tokyo. Il est 20% plus cher que dans l'Union européenne. Les produits alimentaires sont 90% plus chers à Nouméa qu'en métropole. Une étude de 2012 montrait qu'un iPad 2 a coûté 40% plus cher à Nouméa qu'à Bruxelles. Et un des nœuds gordiens de ce problème-là, une des péchés originels de cette économie-là, ultramarine et calédonienne en particulier, c'est l'indexation des salaires des fonctionnaires, qui a un effet donc inflationniste particulièrement nocif. Les rapports parlementaires, les études des économistes, je pense en particulier au grand économiste Jean Fraisse de l'IRD, qui avait fait un travail remarquable de Hurstom dans les années 80, l'ont montré. On a donc un syndrome néerlandais qui touche la Nouvelle-Calédonie, et on a aussi ce que les économistes appellent une malédiction des ressources naturelles. Alors, les économistes utilisent cette expression qui est critiquable, hein, mais bon, vous avez Stiglitz, Otti qui ont développé cette idée d'une malédiction des ressources naturelles. De quoi s'agit-il ? Ben, c'est finalement un constat paradoxal. Les économistes, en analysant la présence ou l'absence de ressources naturelles et puis les niveaux de développement, ont constaté que si l'absence de ressources naturelles ne posait pas de problème en matière de développement, en revanche, avoir des ressources naturelles pose des problèmes de développement. On peut très bien se débrouiller sans ressources naturelles, on va avoir du mal à se débrouiller lorsqu'on a des ressources naturelles. Ça paraît paradoxal. Alors, pourquoi il y a ce phénomène-là ? Ben, d'abord, parce que les ressources naturelles, il y a le problème de la redistribution de celles-ci. Qui dit ressources naturelles dit en général des sociétés très inégalitaires, parce que la redistribution se passe souvent mal. La rente minière entraîne une instabilité politique. Alors, ce n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie, mais dans beaucoup d'autres pays, vous avez des coups d'État ou des guerres civiles liées à ces ressources naturelles. L'extraction minière est indépendante du niveau de qualification des individus. Hein, donc, ce sont des pays qui ne misent pas sur les systèmes éducatifs, qui sous-investissent en matière d'éducation. Et puis, la richesse produite par ces ressources, des ressources non renouvelables, en fait, elle est dilapidée d'une manière non efficace. Quand, avec l'argent de la mine, on achète de l'immobilier sur la Gold Coast ou en Thaïlande, ce n'est pas une manière, ce n'est pas la meilleure manière de faire fonctionner l'économie. Il vaudrait mieux, comme l'a fait la Norvège, par exemple, créer des fonds épargnés pour l'après, même si l'après est très loin pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, en plus, en Nouvelle-Calédonie, la richesse de la Nouvelle-Calédonie, elle repose sur le nickel. Or, le nickel, le rapport Cyclope de 2015 vient de sortir, il a fait pas mal de bruit. Le nickel, ça fait partie des matières premières les plus instables. La géopolitique du nickel, elle est très complexe. Elle est liée à des oligarques russes, à des révolutionnaires cubains, elle est liée à des spéculateurs londoniens, elle est liée à des indépendantistes néo-calédoniens, des investisseurs chinois. Bon, c'est très difficile de maîtriser le marché du nickel. Et le marché du nickel est un marché cyclique avec des évolutions de cours qui sont très fortes. Il y a quelques années, le nickel était à plus de 50 000 dollars la tonne. Il est aujourd'hui à 12 ou 13 000 dollars. Donc, il est... En fait, il serait très judicieux pour la Nouvelle-Calédonie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne pas trop se focaliser sur le nickel. La principale victime du syndrome néerlandais en termes d'activité en Nouvelle-Calédonie, c'est le tourisme. Je vais faire bondir peut-être certains, mais la Nouvelle-Calédonie, avec le potentiel qu'elle a, avec la situation qu'elle occupe, à 2 heures de vol de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, à quelques heures de vol de la Chine ou du Japon. Ça devrait être une destination qui devrait accueillir 1 million, 2 millions de touristes. Aujourd'hui, alors, quand je dis ça, les gens lèvent les bras, parlent d'invasion touristique. Mais le tourisme, c'est une source de revenus. Le tourisme, c'est une activité qui permet de redistribuer de la richesse. Lorsqu'on regarde ce document que j'ai établi pour le livre, j'ai pris une base 100 en 1982. Je compare la Nouvelle-Calédonie avec les autres grandes destinations du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie est la destination dont le flux a le moins augmenté sur 30 ans. La Polynésie fait un peu mieux. Et vous voyez des destinations proches, concurrentes, Vanuatu, le Fidji, qui ont connu des doublements, des triplements de la fréquentation, des quadruplements en 30 ans. La Nouvelle-Calédonie reste bloquée à 100 000 touristes par an depuis 15 ans. Et encore, 100 000 touristes par an, quand on utilise les statistiques de l'OMT, de l'Organisation mondiale du tourisme, qui inclut les voyageurs d'affaires, c'est-à-dire les 20 000 voyageurs d'affaires qui viennent dans le cadre du nickel, qui inclut les sportifs qui viennent faire des compétitions. C'est pour ça qu'il y a eu un boom de la fréquentation touristique en 2011, parce qu'il y avait les Jeux du Pacifique, qui inclut des gens qui viennent se faire soigner en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, on a 75 000 touristes, ce qui fait que la Nouvelle-Calédonie est une destination invisible sur le plan mondial, une destination touristique invisible. Vous voyez, là, le cartographe qui a fait cette carte a pris pour seuil minimal de fréquentation 200 000 touristes. Eh bien, on ne voit pas la Nouvelle-Calédonie. On voit Hawaï, presque 8 millions de touristes. On voit, bien sûr, la Caraïbe. Alors, ne regardez pas ces cercles-là, c'est Hong Kong et Hainan, donc il ne faut pas en tenir compte. Mais regardez les Maldives, 1 million de touristes. Maurice, 1 million de touristes. Les Maldives, il y a 20 ans, il y avait 200 000 touristes. Donc, il y a un potentiel de développement qui est extrêmement important, mais qui n'est pas exploité à la fois d'un point de vue international par l'arrivée de devises, mais aussi d'un point de vue intérieur lorsqu'on regarde comment les touristes en Nouvelle-Calédonie pratiquent son espace. Vous voyez, ces cartogrammes que j'ai faits reposent sur l'analyse des nuitées. Donc vous avez ici des nuitées. Vous voyez, pour les Australiens et les Néo-Zélandais, 90% de leurs nuitées se font à Nouméa. Les 10% restants, c'est l'île des Pem, ils ne vont nulle part ailleurs. Ils ne vont pas dans le Loyauté ou presque pas, ils ne vont pas en province nord, ils ne vont pas dans le reste de la province sud. Les Japonais, c'est presque pareil, sauf que les Japonais, il y a Uvea, donc il y a une petite fréquentation, il y a quelques milliers de Japonais, quelques centaines de Japonais qui vont à Uvea chaque année. La redistribution de la richesse, ce sont les métropolitains qui la font le mieux parce que, certes, Nouméa l'emporte, mais ils fréquentent aussi la province nord, les îles Loyauté, le reste de la province sud, l'île des Pem, donc à l'occasion d'une série de diverses pratiques. Ici, j'ai mis une photo des week-ends découvertes, mais ça peut être autre chose. Les effets redistributifs du tourisme ne sont pas du tout mis en valeur. Le tourisme, c'est de l'argent qui est gagné quelque part et qui est ensuite consommé dans les destinations touristiques. Les gens qui habitent Nouméa, les métropolitains qui habitent Nouméa quelques années et qui vont en tribu, c'est de l'argent qu'ils gagnent à Nouméa et qui vont injecter dans l'économie en brousse, dans les îles. C'est une redistribution de la richesse. Et ça nous amène à aborder la question du rééquilibrage qui a été un fil conducteur dans mon ouvrage. Alors, la redistribution de la richesse, le rééquilibrage, c'est une notion essentielle dans le cadre des accords de Matignon et de Nouméa. C'est une notion qui est floue, mais qui en même temps a légitimé le volontarisme politique de l'État qui a rassuré la population. Il s'agit de redistribuer plus équitablement les richesses, à la fois sur un plan territorial et humain, les richesses, les pouvoirs, les équipements et les aptitudes. Force est de constater que, après 20 ans de politique volontariste en matière de rééquilibrage, Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous voyez ici, sur ce graphique, les inégalités sociales en matière de qualification. Donc, bon, ce sont les chiffres du recensement de 2009, puisque recensement 2014, bon, les chiffres sortiront probablement à ce niveau-là et sur ce thème-là en 2016. Vous voyez qu'ici, on a plus de 50% en 2009, donc on a plus de 50% des Européens qui ont un niveau bac et plus. On a seulement 12% de la population kanak, 14% de la population wallisienne et futunienne. Donc on a un écart dans le niveau de formation qui est de 1 à plus de 4 entre les kanaks et la population d'origine européenne. Pareil en matière d'emploi. Ici, vous voyez sur ce document la part des ouvriers dans les actifs ayant un emploi par communauté. Vous voyez que Wallisiens et Futuniens, presque à 50%, les Wallisiens qui travaillent sont ouvriers. Kanak, à peu près 40%, Européens, 10%. On a des différences considérables en matière de niveau d'enseignement supérieur. Vous avez un Européen sur cinq qui a un diplôme de deuxième ou troisième cycle universitaire. Vous avez un Kanak sur 100. Donc là, on est dans un rapport de 1 à 20. Vous avez 85% des détenus du camp Est qui seraient Kanak, selon le Sénat coutumier. On a une jeunesse Kanak qui est en partie à la dérive. Et un des éléments de la question, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus, comme pendant les événements, une population Kanak qui était très majoritairement en brousse. La part, vous voyez sur cette courbe rouge, la part des Kanaks vivant dans le Grand Nouméa a beaucoup augmenté. On était à 40% en 2009, on se rapproche progressivement de la moitié des Kanaks qui aujourd'hui habitent le Grand Nouméa. Donc c'est un élément aussi important qu'il faut prendre en compte. Un autre élément important dans ces inégalités qu'il faut prendre en compte, c'est les inégalités au niveau communal. Là, on a des disparités communales qui sont phénoménales. Alors, en Europe, on utilise souvent le cas italien pour montrer un exemple d'inégalité régionale entre le nord prospère et le sud extrêmement en retard. On n'a pas en Italie un écart, par exemple, en matière de formation, qui va de 1 à 11 entre les communes les plus prospères et les communes les moins prospères. Nouméa, plus de 40% des habitants ont un niveau bac et plus. Ouégua, on est à 7%. Pueblo, on est à 8%. Donc on a ici tout le nord de la Nouvelle-Calédonie, plus Bélep. Regardez en matière d'équipement. Les ménages sans téléphone fixe ou mobile. Là aussi, on a des écarts spectaculaires entre les communes les plus prospères, donc les communes du Grand Nouméa, et les communes les plus à l'écart, donc qui se trouvent sur la côte Est, qui se trouvent donc être les îles Loyauté. Alors, on a un écart de 1 à 19 entre Nouméa et Bélep, 1 à 10 entre Nouméa et la côte Est. Ça, c'est tout à fait considérable. En Italie, bon, je prends le cas italien que je connais un peu, en Italie, les écarts sont de l'ordre de 1 à 4. Quand je parle avec des collègues italiens de la Nouvelle-Calédonie, que je leur dis qu'il y a des écarts comme ça, ils me disent qu'ils sont vraiment très surpris. Alors, les écarts, les inégalités entre communautés se retrouvent aussi dans d'autres domaines. J'ai essayé de voir, en particulier dans tout ce qui est pratique à risque, il y a un effarant retard en Nouvelle-Calédonie dans la prise de conscience du risque. Je pense en particulier à l'insécurité routière. Si on fait des comparaisons, alors il ne faut pas faire de comparaison avec la métropole, parce que ce n'est pas comparable du point de vue de la circulation routière. Si on fait la comparaison avec la Nouvelle-Zélande, qui a un réseau routier à peu près équivalent à la Nouvelle-Calédonie, qui a à peu près la même densité de population, en Nouvelle-Zélande, on a à peu près 10 tués pour 100 000 habitants. En Nouvelle-Calédonie, on est à 26 tués. Donc, on a une surmortalité en Nouvelle-Calédonie qui est extrêmement forte. On a aussi, quand on regarde les rapports de l'INSERM sur l'état de santé de la population néo-calédonienne, on se rend compte qu'en matière d'infections sexuellement transmissibles, en matière de grossesses non désirées, on a des écarts entre communautés et on a des situations qui sont assez édifiantes. Donc, vous voyez que le destin commun, il est un petit peu à relativiser lorsqu'on prend en compte ces écarts de genre de vie, de revenus, qu'on retrouve à un autre niveau qui est le niveau des provinces. Sur ce document, vous avez donc la population provinciale pour les trois dates de recensement, 89, 2009 et 2014. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a eu une légère redistribution de la population. On était à 75% de la population en 2009 en province sud, on est passé à 74,4% parce que la province nord a pris un peu d'importance. Alors globalement, aujourd'hui, pour vous donner les chiffres tout chauds du recensement, c'est assez simple, il y a 200 000 habitants en province sud, 50 000 en province nord, et le reste, 18 000 en province des Îles-Loyauté. Vous voyez que, avec les indicateurs que j'ai placés, il y a une surreprésentation des populations d'origine européenne en province nord, 75% de la population, mais 91% des Européens, 91% des diplômés du supérieur, 80% du PIB, 82% des salariés du public. Et à l'opposé, donc, une sous-représentation pour ces indicateurs, province sud et province nord, pardon, et province des Îles-Loyauté. On a les mêmes choses lorsqu'on regarde certains équipements des ménages ou l'espérance de vie. Vous constatez qu'en matière d'espérance de vie, entre la province sud et les deux autres provinces, vous avez 3 années d'écart. On est à 73 ans pour les hommes, 81 ans pour les femmes en province sud. On est à 70 ans et 78 ans en province nord et en province des îles. 3 ans d'écart, c'est quand même assez fort comme écart. Bon, vous voyez, en termes d'équipement, ordinateur, réfrigérateur, on a des écarts qui sont considérables. Alors, dans cette logique de redistribution, de rééquilibrage, il y a quelque chose qui est important, qui est au cœur du débat politique en Nouvelle-Calédonie, c'est la question des dotations de fonctionnement et donc de la clé de répartition qui anime régulièrement le débat politique, la vie politique. Donc vous voyez que la dotation de fonctionnement, cette clé de répartition, 50, 32, 18%, elle n'est, bien sûr, qu'elle favorise les deux provinces indépendantistes, province nord et province des îles Loyauté, au détriment de la province sud. Je ne me prononcerai pas sur le fait que les clés de répartition sont gravées dans le marbre ou pas, ce n'est pas mon propos. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le débat se focalise sur les clés de répartition en matière de redistribution des richesses, des revenus, alors qu'il y a d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie. Et en matière de mécanismes redistributifs, il y a un premier mécanisme qui se fait à l'échelle sous-régionale, à l'échelle des bassins de vie, ou ce qu'on peut appeler aussi des bassins d'emploi, si on prend des définitions métropolitaines. Vous avez une redistribution de la richesse entre des communes qui sont des pôles d'emploi et des communes dortoirs. Ici, j'ai calculé pour l'ensemble des communes le rapport entre les actifs occupés sur la commune et les actifs occupés de la commune, c'est-à-dire le rapport entre les emplois sur la commune et les gens qui travaillent et qui habitent cette commune-là. Lorsqu'on est au-dessus de 1, on a un pôle d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois que d'actifs habitants sur ce lieu. Lorsqu'on est sous ce rapport de 1, on a affaire à des communes plutôt dortoirs. On voit apparaître clairement les communes qui polarisent le plus, qui redistribuent le plus la richesse, c'est-à-dire Nouméa, les communes minières, Kwawa, Vo, ou administratives, comme Koumak, ou Kone aussi, qui est minier. Et à l'opposé, on voit les communes du Grand Nouméa, hormis Nouméa, avec également d'autres petites communes. Là, il y a des effets de maille pour Farino et Saraméa, mais vous voyez apparaître Bouloupari, Païta. Donc, il y a une redistribution qui s'opère. Alors, pour me faire comprendre un peu mieux, je prends l'exemple du bassin Koumakois. Koumak est la richesse de Koumak, donc à la fois l'activité administrative et puis l'activité minière, elle se redistribue à l'échelle de ce bassin de vie. Vous voyez que vous avez des migrations alternantes, vous avez des gens tous les jours qui font le déplacement de Pueblo à Kumak, de Calagomen à Kumak, voire, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par mois, de Pelep à Kumak. Donc il y a une redistribution à l'échelle des bassins de vie de la richesse. Ça, c'est un premier élément. Il y a une redistribution qui est très peu analysée. Alors ça, c'est très paradoxal. Il y a peu de monde qui se sont intéressés à cette redistribution-là. C'est la redistribution de la richesse entre le Grand Nouméa et les îles Loyauté. Aujourd'hui, vous avez plus de Loyalsiem dans le Grand Nouméa que dans les îles Loyauté. Lorsqu'on regarde les locuteurs, on peut le voir en particulier dans les locuteurs des langues loyalsiennes, le Ngoné, le Djéou, le Yahi, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de locuteurs aujourd'hui dans le Grand Nouméa que dans les îles Loyauté. Ben, il y a des échanges en permanence, des transferts financiers qui sont probablement considérables entre Nouméa et les îles Loyauté. Il y a des transferts financiers, pas forcément sous la forme de remises, telle qu'on l'entend dans le modèle Mirab, mais également dans cette multirésidentialité qui est extrêmement forte en Nouvelle-Calédonie et qui tempère la notion d'exode rural. Il est assez difficile en Nouvelle-Calédonie de parler d'exode rural dans la mesure où la population est extrêmement mobile. Elle va passer 6 mois à un endroit, elle va revenir. Il y a une permanence des échanges entre la ville et la tribu, entre la commune d'origine et le Grand Nouméa. Et là, il y a des phénomènes de redistribution qui sont très forts, qui sont très mal analysés. Donc là, il y a vraiment des travaux pour les économistes qui s'ouvrent. Un autre élément redistributif, je n'ai déjà parlé, le tourisme, mais l'activité de croisière, qui est une activité largement sous-estimée en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que les plus grands ports de croisière aujourd'hui dans la France d'outre-mer, ils ne sont pas aux Antilles. C'est pas Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre, c'est Nouméa, c'est l'île des Pins et c'est à Asso. Il y a 300 000 croisiéristes à Nouméa, il y a plus de 200 000 croisiéristes chaque année à Lifou. Lifou, 8 000 habitants, plus de 100 paquebots qui touchent l'île chaque année, 20 000 euros de retombées économiques par paquebot, 2 millions d'euros injectés dans l'économie de Lifou chaque année, 2 millions d'euros, 8 000 habitants. C'est aujourd'hui, pour le district du Wetch, c'est une ressource particulièrement importante. Et je pense que là, il faudrait vraiment s'impliquer à fond dans la croisière. Alors, bien sûr que l'accueil des croisiéristes s'est beaucoup amélioré, que ce soit à Nouméa ou sur l'île des Pins ou à Lifou, mais il faut bien prendre en compte que c'est une injection d'argent qui est extrêmement forte. Alors, ça nous amène à aborder, pour terminer, finalement, la restructuration de l'espace néo-calédonien. Comment, en bon géographe, je m'intéresse à la manière dont l'espace est organisé, comment l'espace évolue, se restructure. Bon, on a des phénomènes très classiques qu'on trouve dans toutes les îles tropicales et puis dans beaucoup de pays, c'est la concentration de la population dans la capitale, dans la ville principale. Vous voyez ici le poids du Grand Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Le Grand Nouméa, c'était à peu près le tiers de la population de la Nouvelle-Calédonie dans les années 50. Aujourd'hui, on a dépassé les deux tiers. Donc, ce qu'on pourrait appeler une macrocéphalie, donc une tête qui est de plus en plus grosse, et puis le reste du pays qui concentre de moins en moins d'habitants. Puis il y a un deuxième phénomène qui est à l'œuvre, c'est la redistribution au sein du Grand Nouméa de la population, au détriment de Nouméa, en valeur relative, au profit des trois communes, Mondor, Dumbéa et Païta. Vous voyez qu'en faisant un anachronisme, ces trois communes, Mondor, Dumbéa et Païta, c'était 2% du Grand Nouméa en 1956. 30% en 2009, probablement plus du tiers de la population du Grand Nouméa aujourd'hui, en 2014. Donc ça aussi, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte, avec deux formes spatiales qui apparaissent très clairement. Une forme, ce qu'on pourrait appeler une suburbanisation, donc la croissance des banlieues, exemple ici, donc les banlieues qui sont en continuité de bâti, donc là c'est une approche morphologique, la continuité du bâti par rapport à la ville-centre, hein, comme ici le quartier de Cutio à Dumbéa. Alors juste une parenthèse, lisez en Nouvelle-Calédonie ne définit pas le fait urbain. Le fait urbain, l'INSEE en France le définit, il y a des unités urbaines, il y a des aires urbaines. L'ISEE ne définit pas le fait urbain. Donc, quand on parle de l'agglomération de Nouméa, on parle du Grand Nouméa et on met les quatre communes ensemble. En fait, ces quatre communes, ce sont des aires urbaines. Si véritablement on raisonne au niveau de la morphologie de la ville, il faut plutôt utiliser la définition de l'INSEE qui est celle d'aire urbaine. Et à ce moment-là, on écarte les espaces qui ne sont pas en continuité avec la ville-centre. C'est-à-dire qu'on va écarter le centre de Païta ou on va écarter aussi la Tontouta. Et là, on arrive au bâti continu qui correspond à une unité, donc à une unité urbaine de 130 000 habitants. Donc, à titre de comparaison, donc on est, Nouméa, l'unité urbaine nouméenne, c'est l'équivalent de La Rochelle, hein, si on fait une comparaison avec la métropole. Exactement la population de La Rochelle. Donc on a cette forme spatiale, première forme spatiale, la suburbanisation, des banlieues qui s'étalent. Et la deuxième forme spatiale, c'est la périurbanisation, hein, qui gagne du terrain, hein, plus vers le nord-ouest que vers le sud-ouest, hein, plus vers donc Bouloupari et au-delà que vers le Mont d'Or. Hein. Vous voyez un exemple de noyau classique périurbain, Tomo, hein, donc, qui est une localité, qui n'est pas une commune, c'est une fraction de la commune de Bouloupari, qui est polarisée par des zones d'emploi qui sont soit au nord-ouest vers Bouloupari, voire au-delà à la fois, ou vers Païta, Dumbéa ou Nouméa. La réflexion sur l'organisation de l'espace m'a conduit à proposer une nouvelle cartographie de l'organisation de la Nouvelle-Calédonie, donc avec la mise en évidence de ce que j'ai appelé un couloir central, c'est-à-dire un ensemble qui va du Mont d'Or jusqu'à Bouraï, qui est le plus dynamique. Vous avez à la fois une prospérité assez forte, une dynamique démographique évidente, et qui recoupe un indicateur qui est important, qui est celui de la part de la population kanak, c'est la zone où les kanaks sont les moins représentés. Vous voyez ici, donc, on est dans des communes où il y a moins de 40% de population kanak. Et c'est aussi le secteur le plus non indépendantiste. Ici, c'est une carte qui va être publiée prochainement, donc la carte des élections provinciales de mai 2014. Vous avez donc ces communes en bleu qui sont les communes où les non-indépendantistes, les indépendantistes sont minoritaires. Donc vous voyez que ça part de l'île des Pins, Mont d'Or, ça va jusqu'à Bouraï et Pouya Sud, avec l'exception Koumakouaz. Et puis le reste de la Nouvelle-Calédonie qui est plutôt indépendantiste. Alors je reviens à mon schéma d'organisation. À côté de ce couloir central, les analyses, enfin, mes travaux montrent qu'il y a, à l'évidence, et donc on revient sur l'idée du rôle du nickel, il y a véritablement une diagonale minière, hein, en Nouvelle-Calédonie, donc qui prend en écharpe la Nouvelle-Calédonie, qui part de Yaté et qui va jusqu'à Koumak, voire Poum, hein, où là vous avez des communes dont le fonctionnement repose en particulier sur les revenus de la mine, hein, sur la vie minière. Hein. Troisième ensemble, ce que j'ai appelé la ceinture périphérique, c'est-à-dire une zone marginalisée où on a un déclin démographique, où on a les indicateurs les moins flatteurs, hein, donc qui part de Bélep, qui prend la côte océanienne jusqu'à Ponériouen, une partie de Wailou, et puis qui inclut les îles Loyauté. Et puis un cas à part, hein, qui est l'île des Pins, qui est, à mon sens, la seule vraie destination touristique. Donc, c'est le seul territoire qui fonctionne véritablement sur l'importance du tourisme, avec une hôtellerie qui est diversifiée. Alors, pour essayer de valider ces hypothèses, j'ai fait tourner une analyse statistique un peu compliquée, donc je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne l'analyse en composante principale, donc ça fait partie de l'analyse multivariée. Donc j'ai fait tourner une vingtaine d'indicateurs pour les 30 communes, pour les 33 communes, et puis pour les quartiers de Nouméa aussi, on verra l'analyse au niveau des quartiers de Nouméa. Et j'ai fait tourner l'analyse en composante principale pour 1989 et pour 2009 pour voir comment se répartissaient les communes. On a, grâce à l'analyse en composante principale, deux facteurs théoriques qui apparaissent. Alors, l'analyse en composante principale, elle a pour mission d'essayer de synthétiser, de résumer une information complexe. Vous voyez, j'ai une matrice de chiffres, j'ai 20 indicateurs, 33 communes. Elle me sort des critères théoriques et elle me dit combien chaque critère théorique permet de comprendre la variabilité de l'ensemble de mes données. Et en faisant tourner pour 2009, j'ai deux critères théoriques qui sont sortis, qui sont très forts. J'ai un premier critère qui est sur cet axe horizontal qui permet de comprendre 60% de mes résultats. C'est un axe, cet axe horizontal, qui permet de révéler les disparités de ressources. D'un côté, les communes les plus riches, de l'autre, les communes les plus pauvres. Ce qui explique que d'un côté, on a Nouméa, de l'autre, on a Bélep. Et j'ai un deuxième axe qui apparaît, qui explique 15% de la variance totale, qui est que j'ai interprété comme la base économique de ces communes. Une base économique administrative, transfert public, c'est les communes qui sont ici, et une base économique minière ou touristique pour l'île des PEM, qui est ici. Résultat, on aboutit finalement à quatre types de communes très marquées, très accusées, des communes dynamiques et intégrées, que vous voyez ici, qui inclut Coné en particulier, Pointe-Boute aussi, des communes très particulières, Canac et administratives, parce que là, il y a le rôle, Lifoupre, capitale de la province des îles Loyauté, Pointe-Dimier, capitale administrative de la côte Est, les communes minières et touristiques, vous les voyez, et les communes marginalisées ici, donc Wailou, Wegua, Ponyeriwen, donc on a le Grand Nord, et on a des îles, les îles Loyauté, Ouvéa et Marais. Alors, à propos des îles Loyauté, un élément important, c'est bien évidemment le déclin démographique des îles Loyauté sur un siècle, sur un peu plus d'un siècle. C'était 25% de la population de la Nouvelle-Calédonie jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est moins de 7%. Mais il faut savoir aussi que les Loyaltiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont plus nombreux dans le Grand Nouméa que dans les îles Loyauté. Alors, pour essayer de comprendre les dernières dynamiques en attendant les chiffres du recensement de 2014, j'ai utilisé, et ça c'est vraiment au dernier moment, lors du bouclage du bouquin, c'est-à-dire en juillet 2014, le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie m'a envoyé les effectifs scolaires de 2014, de la rentrée 2014, donc de février 2014. Donc j'ai pu comparer les effectifs 2010 aux effectifs 2014, donc qui couvre à peu près la dernière période intersensitaire. Et ici, vous avez donc cette hiérarchie, en fait, c'est les 13 communes les plus importantes en matière d'effectifs scolaires. Donc, bien sûr, Nouméa, puis Dumbéa, Païta. Donc, vous avez ici la hiérarchie en termes d'élèves scolarisés. Donc, vous voyez que sur ce document, on voit le déclin démographique très clair des îles Loyauté, moins 26 à moins 11%, de moins 12 à moins 26% pour les effectifs scolarisés à Ouvéa, à Marais et à Lifou. Plus Wailou qui baisse. Et à l'opposé, on voit la dynamique du Grand Nouméa, les communes qui voient leurs effectifs le plus augmenter, plus 6 à plus 17%, Dumbéa, Païta et bien sûr Coné. Un autre élément que j'ai essayé de montrer pour travailler sur ces inégalités, pour voir un peu quelles étaient les zones les plus marginalisées, c'est de travailler sur l'accessibilité aux tribus. Tout à l'heure, je vous ai montré deux communes avec une carte en isochrone, donc où j'ai mesuré les temps de parcours de chaque tribu jusqu'aux mairies. Donc j'ai concentré toutes ces cartes des 33 communes pour faire une carte globale qui permet de voir quelles sont les zones les plus marginalisées en Nouvelle-Calédonie, les zones où la population est à plus d'une heure, une heure et demie de route, quand il fait beau, de la mairie. Bien, sans surprise, vous avez, donc, c'est le nord de la chaîne qui se trouve être la plus marginalisée, c'est-à-dire toute la zone du Haut-Diaot, ici, donc sur Wegwa, donc Waon en particulier, Yengen, Okulna et Wayaget, Kalagomen avec les tribus de Weol ou de Wemu. Donc ça permet de voir quelles sont les zones aujourd'hui qui sont les plus à l'écart dans cet espace néo-calédonien. Cette analyse que je fais à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, je l'ai faite aussi à l'échelle des quartiers, pour voir, là encore, quelle a été l'évolution entre 1989 et 2009. Alors, avant d'aborder les quartiers, je voudrais revenir juste à ce document. Quand on regarde, je ne le présente pas parce que pour ne pas perdre de temps, mais quand on regarde ces deux premiers axes factoriels pour 1989, on se rend compte qu'en 1989, la dispersion des communes était plus faible. On avait quelques communes qui étaient détachées, qui étaient dans le Grand Nouméa, et puis ensuite, on avait des communes qui se distribuaient d'une manière continue. Alors, si vous voulez, dans le livre, je fais une métaphore cycliste. On avait un peloton assez étiré, qu'on trouve souvent dans les étapes de plaine un peu dynamique. Donc, on a quelques échappées, et puis derrière, on a un peloton assez étiré parce qu'on va très vite. Et en 2009, on a une configuration tout à fait différente. On a là affaire à un peloton, enfin, à une course, un Tour de France dans une étape de montagne, où vous avez des échappées, et puis toute une série de groupes petits derrière. Et finalement, cette redistribution sur ces deux premiers axes factoriels traduit une sorte de un dopage très inégal à la rente minière et à l'argent public. L'inégalité dans ce dopage permet, alors là, il n'y a pas de contrôle antidopage, bien évidemment, à l'échelle des communes, mais permet de comprendre cette configuration. Elle permet aussi donc de comprendre d'autres phénomènes. Alors, je termine sur Nouméa. Nouméa, quand on regarde la situation en 89 et en 2009, donc la carte du haut, la carte du bas, donc avec quatre types de quartiers, toujours issus de mes analyses factorielles, quartier aisé, quartier intermédiaire, quartier populaire, quartier marginalisé, on se rend compte que, et ça c'est un processus qui est mondial, les inégalités au sein des villes ne se résorbent pas, au contraire, les villes sont de plus en plus fragmentées, et Nouméa l'est tout autant que les autres villes de la planète. Avec un double processus qui s'est opéré à Nouméa, d'un côté, vous avez eu une taudification de certains quartiers, en particulier les quartiers nord, avec l'apparition des squats. On voit ici, par exemple, l'apparition de Nouville ou du bout de la presqu'île, de Numbo en particulier ici, Numbo Kumuru. Et de l'autre côté, ce qui apparaît très clairement, c'est que les quartiers sud se sont gentrifiés, c'est-à-dire que la population aisée s'est de plus en plus concentrée dans les quartiers sud de Nouméa, au détriment des quartiers intermédiaires, par exemple la vallée des Colombes, qui est peut-être une sorte d'âme calédonienne. On voit très bien que les écarts se creusent. Alors, bon, ne tenez pas compte de la position de Receiving, qui est un peu particulier, puisque Receiving, c'est un effet de maille, c'est un tout petit quartier dans lequel habitent tous les fonctionnaires internationaux de la CPS, de la communauté du Pacifique. Donc ça perturbe les statistiques. En termes de revenus, en termes de niveau de formation. Donc, Receiving, quand on en fait des études statistiques, on connaît, c'est tout petit, c'est un effet de maille. Bon, les statisticiens connaissent ça. Alors, quelques indicateurs qui vous montrent les disparités au sein de l'agglomération de Nouméa. Les ménages sans ordinateur en haut ou les ménages non connectés au réseau électrique, vous voyez la disparité entre le nord de la ville et le sud. Regardez ici donc, les ménages non connectés au réseau électrique. Bon, apparaissent très bien les zones de squat de Numbo, Nouville. Regardez encore deux autres indicateurs, on terminera là-dessus. Les diplômes égaux ou supérieurs à Bac plus 3, forte concentration dans le sud de la commune, faible concentration dans le nord avec Tina, qui est un cas particulier. Hein. Et pour les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, alors ça, c'est intéressant. Hein. Donc, les quartiers sud sont bien sûr les quartiers où il y a le plus de personnes nées à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc, d'où ces couleurs plus claires. Hein. Bon, donc au total, vous voyez que le processus de rééquilibrage, il est en cours. Hein. Il est loin d'être abouti, mais c'est par la persévérance hein, que ce rééquilibrage se fera progressivement. C'est des mécanismes qui sont très longs à fonctionner, qui sont très longs à se mettre en place. Moi, ce qui m'inquiète un peu en Nouvelle-Calédonie, c'est... Mais là, je donne pas la leçon, je suis neutre, je suis pas néo-calédonien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la bombe à retardement des inégalités. Ça me semble être un élément de, vraiment important que les pouvoirs publics, de tout parti confondu, doivent de plus en plus prendre en compte. Et puis pour en revenir à mon idée de destin, je pense qu'on ne peut souhaiter que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas un pays d'avenir dans le destin et de le rester. Il faut que la Nouvelle-Calédonie soit un pays d'avenir, mais qui se concrétise. Et là, donc, j'espère que le destin, dans ce cadre-là, c'est dans sa deuxième acception qu'il faut le prendre en compte. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, le temps a passé. Je vous propose un échange avec le public, les questions que vous pouvez avoir. Peut-être on se donne 10 petites minutes. Et puis ensuite, une fois qu'on aura eu cet échange, le livre de Jean-Christophe est en vente à la boutique de la MNC. Donc, il vous sera possible à la fois de l'acquérir, mais aussi de le faire signer par l'auteur. Il y a deux micros qui vont circuler. Prenez surtout, voilà, demandez les micros pour pouvoir poser les questions, puisque la rencontre est enregistrée et qu'elle pourra être diffusée ensuite. Vous pourrez la réentendre sur le site de la Maison de la Nouvelle-Calédonie.
Bonsoir, Erwan Kero-Redan. J'avais une première question sur le tourisme. Vous avez mis en avant en fait les écarts entre la Nouvelle-Calédonie et d'autres territoires ou pays en matière de développement touristique ces dernières années. Je voulais savoir, concernant ces pays en question, dans quelle mesure le développement touristique a contribué au développement économique de ces pays en question.
Oui, alors toujours, on accuse le tourisme de ne pas injecter tous les revenus dépensés par les touristes sur place. Alors, bien évidemment, on peut dire ça de toutes les activités économiques. Donc, il y a une tourismophobie rampante sous-estime généralement les effets du tourisme. Alors, certes, tout l'argent dépensé par les touristes n'est pas injecté dans les sociétés locales. Mais le tourisme a une énorme qualité, en particulier dans les territoires insulaires tropicaux, c'est de maintenir les populations sur place. Parce que le tourisme, c'est une activité quand même qui demande de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans le monde tropical, insulaire, la seule activité, à part des activités spécifiques, militaires, la seule activité qui permet d'éviter l'exode vers les grandes villes, la capitale ou des villes mondiales, c'est le tourisme. Le tourisme, ne serait-ce que par les emplois qu'il crée, et ne serait-ce aussi par le... ne fût-ce que par la capillarité du tourisme à un niveau très faible, surtout lorsqu'on a affaire à un tourisme intégré, hein, un tourisme en tribu, on dirait, à Nouvelle-Calédonie, ou un tourisme de backpackers aux Fidji. Hein, c'est un tourisme qui permet d'aller dans des territoires assez isolés, et d'injecter de l'argent. Hein, donc, c'est vrai que, mais comme toute autre activité, le tourisme a un tas de défauts. Mais la mine aussi a des défauts, mais il a cet énorme avantage. Et c'est bien dommage que la Nouvelle-Calédonie ne profite pas de la manne des backpackers qui fréquentent les Fidji. Mais là, il y a des questions d'accessibilité aérienne qu'il faudrait évoquer, bien sûr.
J'avais une deuxième question sur la maladie hollandaise. Au final, dans la presse économique, en fait, on fait souvent un seul et même problème de la maladie hollandaise et de la malédiction des matières premières. Je voulais savoir déjà pourquoi vous distinguez les deux. Et est-ce qu'on peut, question qui fâche, est-ce qu'on peut vraiment appliquer le cas, est-ce que la maladie hollandaise est un cas qui est réellement applicable à la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ?
Alors, je fais la distinction entre les deux parce que le syndrome néerlandais, c'est quelque chose qui est établi en économie, c'est quelque chose ce sont des mots qu'on voit dans beaucoup de pays, que ce soit la Russie, l'Australie en particulier actuellement avec le tourisme. Par contre, la malédiction des matières premières, c'est une expression plus critiquable parce qu'elle sous-entend que finalement, on aurait pu faire autre chose que l'exploitation minière. Or, quand on a des ressources minières, on serait quand même stupide de ne pas les utiliser. Donc, l'idée derrière la malédiction des ressources minières, je pense qu'elle est critiquable. Syndrome néerlandais, c'est un concept économique qui fonctionne. C'est pour ça que j'ai distingué les deux. Mais c'est vrai que j'ai été un peu rapide et je ne l'ai pas présenté de la sorte.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre travail et vos explications. J'aimerais beaucoup vous demander, parce que justement, vous donnez beaucoup de données terrain et vous posez beaucoup de questions par rapport au développement et aux disparités. Notamment, vous soulignez la diagonale, enfin la ligne entre les îles Bélep et les îles Loyauté. Et face à ça, je voulais juste vous demander, je me posais une question sur l'absence de renseignements sur la pêche et sur le pouvoir des ressources marines en termes de ressources renouvelables et en termes de développement par rapport à la Nouvelle-Calédonie dans l'échiquier que vous nous avez présenté. Comment est-ce qu'elles auraient leur place et leur potentiel afin de renverser et...
Bien sûr, mais bon, c'est pas simple l'activité de pêche. Il y a la société de la Sofinor qui a fait faillite, la société de pêche à Sofinor, donc qui était basée à Kumak. Donc c'est pas une activité très, très facile à développer. En tout cas, qu'il est moins qu'en Polynésie française, où là, il y a eu une activité de pêche qui s'est développée beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus pensée. Il y a un potentiel, là. Oui. De même qu'il y a un gros potentiel aquacole, mais avec des hauts et des bas. Monsieur Martin.
Oui, tout à l'heure, on parlait du tourisme. J'aimerais bien qu'on puisse revenir sur la diapo du tourisme. C'est juste un détail. Après, je ferai peut-être un commentaire plus général. Mais parce qu'il y a... Je ne comprends pas, là. Quand vous parlez des Carolines du Nord, les Mariannes du Nord. Je ne sais pas, les Mariannes du Nord. Je suis frappé par le chiffre. Mariannes du Nord.
Oui.
Mais c'est quoi, les Mariannes du Nord?
C'est... Aujourd'hui, c'est 600 ou 700 000 touristes. C'est une fréquentation qui...
Vous êtes sûr de ça?
Oui.
Parce que moi, j'ai été une fois aux Mariannes du Nord, il y a un petit moment. J'ai vu la population de la Vallée du Tiers, en gros, quoi.
Oui.
Ouais. Puis ça ressemblait à la Vallée du Tiers, d'ailleurs. Oui. Donc là, je ne comprends pas, là. C'est... Guam, je vois bien, oui.
Ouais. Guam, on est à plus d'un million de touristes.
Mais ensuite, Hawaï, le chiffre me paraît bas pour Hawaï.
Alors, attention, ce sont des indices.
De progression, oui, j'ai bien compris.
Alors, mais... Bien évidemment, quand on parle d'indices, on a toujours le problème de la valeur absolue de base. La valeur absolue de base à Hawaï, c'était déjà 4,5 millions de touristes. Donc, il est difficile d'avoir une multiplication par 3 ou par 4 d'une fréquentation lorsqu'on part déjà de si haut. Lorsqu'on part de bas, bien évidemment, en valeur relative, donc en indice, on va avoir des fréquentations très fortes. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas des chiffres absolus, hein, ce sont des indices. Hein. Hawaï, malgré le fait que en 82, on était déjà à 4,5 millions, Hawaï a continué de progresser, puisque la fréquentation à Hawaï aujourd'hui est presque à 8 millions. Hein. Donc Hawaï, en valeur absolue, a gagné presque 4 millions de touristes, pendant que la Nouvelle-Calédonie en gagnait 50 000.
Bon, je voulais faire un commentaire plus général. Donc vous avez fait un sacré boulot. Hein. Je connais votre ouvrage dans la lancée effectivement de l'Atlas. Donc j'espère que vous avez bien prévu de faire le deuxième livre, qui sera le troisième élément après l'Atlas. Donc c'est très instructif. Je parle du troisième livre parce qu'il serait intéressant dans le cadre de toutes les inégalités que vous avez relevées, hein, et vous insistez beaucoup sur ce sujet, et vous avez raison. Et ces inégalités, on les a bien prises en compte en 1988, en 1998, etc. Donc il serait intéressant maintenant de mesurer les évolutions. Est-ce que les inégalités diminuent ou est-ce que les inégalités se creusent? Et c'est l'essentiel de la question. Parce que vous avez bien dit tout à l'heure, je crains que ce soit une bombe à retardement.
Oui.
Alors, moi, je crois qu'il y a beaucoup, sociales, ouais. Il y a beaucoup de bombes à retardement en Calédonie, malheureusement, et notamment par les temps qui courent. Mais au-delà de ça, la vraie question est de savoir si ça se creuse ou si ça diminue. Quoi. Alors, moi, je suis un éternel optimiste, donc j'ai tendance à croire que les inégalités ont tendance à diminuer, à régresser, et notamment par la politique de rééquilibrage, par la clé de répartition, par les efforts qui ont été entrepris depuis 27 ans.
En matière spatiale, ce que j'ai analysé là, que je vous ai montré, les inégalités ne se sont pas atténuées. Donc le territoire est de plus en plus étiré, que ce soit au niveau de Nouméa, au niveau des communes. Par contre, il y a eu des bons résultats. Je pense en particulier au programme Cadre à venir, 400 cadres. Bon, là, il y a eu des choses tout à fait remarquables qui ont été faites. Mais c'est vraiment des processus qui doivent être menés sur le long terme, avec ténacité, et je crois que ça doit rester tout le temps dans la ligne de mire des politiques. Alors, je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis mal placé, mais je pense que c'est quelque chose qui doit toujours être à l'esprit et ne pas se contenter du miroir déformant de Nouméa qui ne donne pas une image très, très claire de la Nouvelle-Calédonie. Et ce que j'ai constaté en restant plusieurs années en Nouvelle-Calédonie, c'est que les Néo-Calédoniens connaissent très mal leur pays. Très, très mal. Quand vous dites que vous allez à Bélep, pour certaines personnes, on a l'impression que vous leur expliquez que vous allez chez les anthropophages.
Bien sûr. Parce que les Calédoniens sont des vrais Français. Les Français, la géographie, n'est-ce pas? C'est... Par quelques grands spécialistes à Nice, pour le reste, oui.
Excusez-moi, je voudrais vous poser une question sur le tourisme à nouveau. Il y a un fort potentiel en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on remarque une évolution de prise de conscience? Est-ce qu'on remarque une évolution des consciences au niveau du tourisme? Est-ce que les gens et au niveau politique, est-ce qu'il y a une prise de conscience d'un développement à faire au niveau du tourisme? Il y a quand même un potentiel extraordinaire.
J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que le tourisme soit un élément important dans le futur de la Nouvelle-Calédonie, ou du moins pensé comme un élément important pour le futur de la Nouvelle-Calédonie.
Quels sont les freins?
Alors, les freins...
La zone, c'est pas seulement...
Enfin, les freins, c'est d'abord qu'on a affaire à une des destinations les plus chères du monde. Une destination extrêmement chère, avec un niveau de service qui n'est pas qui ne correspond pas au prix. Donc, il y a un problème de... Il y a un problème clairement d'offres. Les freins aussi, me semble-t-il, c'est le caractère inhibiteur de certains transferts publics ou de la manne minière. Quand on travaille à la mine, on n'a pas. Vous regardez en province nord, les gens qui sont sur la côte ouest ne s'investissent pas dans les gîtes, etc. Le travail sur mine rapporte beaucoup plus que l'accueil des touristes. Finalement, le tourisme en Nouvelle-Calédonie, il est considéré comme une sorte d'activité de dernier recours, si vous voulez. Bon, on n'a que ça, on va faire du tourisme. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Mais le potentiel est colossal. Mais bon, quand je dis ça, qu'il faudrait créer un aéroport international à Lifou ou à Marais et faire venir des charters de Japonais... Les gens, bien sûr, lèvent les bras au ciel. C'est de la provocation que je fais. Mais Si vraiment on veut que l'économie fonctionne d'une manière un peu plus équilibrée, il va falloir utiliser ce potentiel-là, me semble-t-il. On est très très près de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. On a une population métropolitaine qui vit quelques années en Nouvelle-Calédonie, qui a une bonne volonté pour découvrir la brousse et les îles. Et aujourd'hui, les gîtes, ils fonctionnent sur cette population-là. On a des Australiennes et des Indés qui demandent de la plage et du soleil. On a tout ça.
En plus, le tourisme rejoindrait une préoccupation au niveau des populations qui sont peu qualifiées. Non seulement, effectivement, ça les maintient sur place, mais aussi on n'est pas obligé d'avoir énormément fait d'études pour pouvoir s'occuper de tourisme. Ça rejoindrait aussi d'autres préoccupations sociales.
Ah oui, le tourisme intégré, bien sûr. Hein. Il faut jouer sur tous les tableaux, le tourisme intégré, le tourisme international, soleil, plage, mer.
D'accord pour développer le tourisme, mais que ça soit plus par rapport à la ville et que ça soit complètement différent. Vous arrivez dans des proportions effectivement qui font très peur, parce que 1 million de touristes à Nouvelle-Calédonie, ça va enlever quand même, parce que la Calédonie a encore
une âme chez les Mélanésiens, chez les Calédoniens, et ça va disparaître complètement. On va se retrouver dans un pays uniforme. Alors, je suis tout à fait d'accord pour développer le tourisme sur le plan économique, mais dans des limites. Alors, je pense que de toute façon, vu le temps qu'il va se faire avant que ça se démarre, ça va être limité. Mais je ne sais pas si c'est souhaitable qu'on se vienne à Hawaï, l'île Maurice. Voilà, c'est mon point de vue.
Oui, alors, je pense qu'il y a une... Le tourisme n'est pas forcément destructeur. Lorsqu'on regarde certaines îles, on voit que la culture locale, entre guillemets, les traditions peuvent faire bon ménage avec un tourisme de masse. Regardez Bali, plan de développement touristique des années fin des années 60, début des années 70. Aujourd'hui, Bali, 2 millions de touristes. Bon, la culture locale, elle reste présente, même si certains parlent de théâtralisation, de folklorisation. Autre exemple, certaines traditions, entre guillemets, sont maintenues grâce au tourisme. Il y a quelques années, il y a eu un cyclone en Polynésie française, le cyclone Oli. Le cyclone Oli a détruit les toits des hôtels sur bungalow de Bora Bora. Et là, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? On s'est rendu compte que les hôteliers ne voulaient plus construire en matériaux traditionnels. Ils voulaient utiliser du palmex, donc un produit synthétique qui ressemble aux palmes de cocotier. Mais on s'est rendu compte que c'est grâce au tourisme que toute une filière existait en Polynésie française. Des centaines de personnes, dans certaines îles comme Mayao, par exemple, où il n'y a que cette activité-là, vivent de cette activité traditionnelle. On peut prendre d'autres exemples, les danses. Vous avez des traditions, entre guillemets, qui disparaissent, non pas parce qu'il y a trop de tourisme, mais parce qu'il n'y en a pas, parce que les gens quittent leur territoire, oublient leur lieu, sont déracinés. Le tourisme, c'est aussi une manière de revitaliser certaines pratiques, coutumes, alors j'aime pas du tout ces mots, mais bon, pour faire simple. Je ne vous ai pas convaincu, je le vois, mais... Oui, mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Celui qui fait le pilou, qui arrive avec les Nike au pied et qui remet ses Nike après avoir fait le pilou, bon, bien sûr que le pilou, c'est quelque chose pour les touristes. Et les touristes, ils voient bien que les gens qui arrivent avec les Nike, ils repartent, remettent les Nike. Mais à un certain moment, il y a un échange. Il y a une information qui passe, il y a une culture, même si c'est sur un mode de basse intensité, il y a quelque chose qui passe. Je n'ai pas entendu.
Théa Kanaké, c'était un grand moment.
D'accord. Oui, bonsoir, Philippe Lessène. Je voudrais vous remercier pour votre exposé extrêmement intéressant. Et je voudrais revenir sur la question des inégalités, un peu dans le prolongement de ce qu'a évoqué le président Raul Martín. En fait, on s'aperçoit, sur la période que vous avez examinée, malheureusement, une relative dégradation et accentuation des inégalités, non pas parce qu'elles auraient été la conséquence d'une politique décidée en Nouvelle-Calédonie, mais tout simplement parce que c'est une des conséquences du mode de développement de nos sociétés. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, c'est propre à tout l'Outre-mer et à toutes nos sociétés occidentales, telles que Piketty, par exemple, récemment encore pu le démontrer. Donc, je crois que, et c'est ce sur quoi j'aimerais avoir votre avis, savoir si la question aujourd'hui sur les problématiques de stratégie de développement de la Nouvelle-Calédonie, voire de posture politique, ne tourne pas autour de la question des mécanismes de redistribution, soit pour essayer de voir dans quelle mesure ceux qui ont pu être envisagés il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, sont toujours pertinents, et s'il ne faudrait pas en inventer ou en imaginer des nouveaux, plus adaptés non seulement aux inégalités anciennes qui se sont aggravées ou nouvelles qui ont apparu. Bon, là, tout ce qui tourne autour de la téléphonie ou l'Internet sont des facteurs nouveaux d'inégalité et donc aujourd'hui malheureusement d'exclusion, dans de nombreux cas, et quels pourraient être ces nouveaux mécanismes de distribution qu'il faudrait essayer d'imaginer pour atteindre ce destin commun sans lequel il est difficile d'avancer avec autant de difficultés.
Ouais, je ne vais pas tomber dans le yaka-faucon, mais je pense que le mécanisme redistributif de la surrémunération, qui a un effet inflationniste particulièrement nocif, doit être revu. Alors, c'est bien sûr, là encore, une bombe à retardement. Le ministre de l'Outre-mer, De Peretti, donc en 1996, avait tenté d'une manière fort maladroite de revoir ce système, puisqu'il proposait de désindexer tous les nouveaux fonctionnaires et de garder l'indexation à ceux qui étaient en place, donc dans les départements d'outre-mer, ce qui était assez incroyable. Bon, je pense que là, il y a quelque chose à revoir sur ce plan-là. Il y a autre chose à revoir sur le plan de la fiscalité locale, me semble-t-il, et avec, pour toile de fond, le fait que ces transferts publics colossaux ne vont pas être permanents. On voit l'état des finances en France. Bon, pour le moment, l'Outre-mer a été relativement sanctuarisé, même plutôt bien sanctuarisé. Si la situation se dégrade, il faut vraiment revoir en profondeur le fonctionnement de l'Outre-mer. Mais comme certains experts économistes le montrent, il va falloir faire les choses en douceur, parce qu'on ne peut pas passer d'une... Le problème du dopage, c'est que lorsque vous arrêtez le dopage, vous n'êtes plus rien. Et c'est l'addiction à la drogue dure du transfert, des transferts publics, de l'argent qui vient de l'extérieur, qui pose problème aujourd'hui. Il est difficile de revenir en arrière. Alors, je ne suis pas un expert, je pense qu'il y a des gens qui planchent là-dessus. De toute façon, il y a énormément de très bons rapports sur l'Outre-mer qui ont été faits, que ce soit par le comité économique et social et environnemental, par des parlementaires, par des experts, par des économistes. Donc, mais les problèmes et certaines solutions, elles sont déjà connues. Mais après, il faut les mettre en œuvre, il faut avoir du courage. Il faut savoir que ça peut mettre à feu et à sang les territoires ultramarins. Bon, donc il faut vraiment être très, très, très. Faire les choses très doucement. Mais les politiques le savent, n'est-ce pas, M. Yano?
Je voudrais vous remercier pour cette conférence et puis faire part de juste une ou deux remarques. Vous avez cherché à faire ressortir un certain nombre à travers votre exposé, d'inégalités existantes sur un certain nombre de choses en Nouvelle-Calédonie. J'aurais tendance à dire faut pas se faire mal pour se faire du mal. Essayer de voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et la solution de trouver des secteurs d'activité et de développement économique en dehors de celui du nickel, celui du tourisme, s'en est un. Moi, je suis d'accord avec vous pour qu'il soit... mais ça, depuis des années, il y a eu plusieurs essais qui ont été faits. Mais je suis intimement convaincu que la Nouvelle-Calédonie présente, et je crois que c'est quelqu'un qui l'a dit au fond tout à l'heure, dans le domaine maritime, des exploitations, enfin du moins du développement économique. Et sur le domaine terrestre, moi je suis un fervent partisan de tout ce qui touche les domaines de la sylviculture qui permettent, comme on l'a dit dans le domaine touristique, d'amener des formations, mais d'utiliser du personnel peu qualifié, parce qu'on l'a bien vu dans votre présentation tout à l'heure, qu'il y a une difficulté sur un grand nombre de personnes peu qualifiées à pouvoir les insérer professionnellement. Donc il y a, pas que sur l'aspect touristique, mais sur d'autres secteurs, véritable travail à faire et études à faire pour aller rechercher le développement de ces secteurs, en sachant qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, c'est le retour des mines, en fin de compte, le développement des mines, c'est qu'on est très attaché à notre environnement, à sa protection. Et sur l'aspect touristique, c'est ce qu'a dit la dame tout à l'heure, avec là, il y a toujours une petite réticence, enfin des réticences qui existent. Pour pas que, comme le nickel a pu abîmer l'environnement, le tourisme vienne abîmer notre environnement. Et qu'on peut rechercher dans d'autres secteurs, tout en protégeant cet environnement, en l'utilisant et en développant des activités économiques. Voilà. Et moi, je reviens sur la sylviculture, où je trouve que la Nouvelle-Calédonie est une terre extraordinaire pour pouvoir lancer, d'ailleurs il y a déjà quelques outils qui ont été mis en place, mais à plus grande échelle. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez, et puis si ça peut faire partie
c'est une piste de
réduire ces inégalités.
Je pense qu'il faut faire feu de tout bois pour diversifier l'économie, donc la sylviculture, la pêche, le tourisme, bien sûr. Plus l'économie sera diversifiée, et plus elle sera stabilisée. Et pas soumettre la Nouvelle-Calédonie au transfert public et au yo-yo des cours du nickel.
Voilà, bah, écoutez, sauf s'il y a effectivement, Madame Ruffnac, monsieur, est-ce que vous avez d'autres questions ? Si ce n'est pas le cas, je remercie vraiment beaucoup Jean-Christophe Gay. Merci. Pour la clarté de son exposé et pour toute la richesse.
Merci.
Et aussi, effectivement, toutes les pistes qui s'ouvrent et toutes les réflexions qui sont encore à venir. Donc, merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à vous. Je vous invite donc, effectivement, à découvrir le livre, peut-être à le feuilleter, à continuer d'échanger et puis continuer l'échange et découvrir le livre de Jean-Christophe Gay. Merci beaucoup. Merci.